Henri de Régnier, Monsieur d'Amercœur. Je n'ai point le dessein d'écrire ici la vie de Monsieur d'Amercœur. D'autres travaillent à ce beau projet avec une patience et un soin infini, et je ne prétends pas les suivre dans les investigations délicates où les mène le désir d'élucider point par point une existence singulière, non moins par ses circonstances que par l'attention posthume qu'elle a suscitée. Il se produit en effet parmi ceux qui s'inquiètent des particularités de la mécanique des événements une vive curiosité autour de ce personnage. Une enquête est née, poursuivie de plusieurs parts, et l'ingérence de tant de laborieuses recherches ne peut manquer d'éclaircir l'énigme de cette destinée. Rien ne passe plus vite à l'oubli qu'une gloire, comme, de son vivant, l'a connu M. d'Amercœur. Fort en vue alors pour ses aventures tant de guerre que de galanterie, par ses façons d'homme à la mode et ses exploits de hard partisan, il semblait plutôt voué au passe-temps des nouvellistes qu'aux veilles des historiographes, et ce ne fut point une petite surprise d'apprendre son intervention occulte aux événements les plus graves, et non seulement qu'il y participait, mais encore qu'il en conduisit les origines à leurs issues et les intrigues à leurs péripéties. Cette entrée de M. d'Amercœur dans l'histoire se fait peu à peu et se confirme à mesure que sa présence y tourne à la préséance et qu'il dépossède de leurs faux attributs des figures fameuses qui n'y deviennent plus que des masques apocryphes sous lesquels on distingue grossi pour ses mimiques ou répugnait le fin sourire de leurs mystérieux instigateurs. Le voici donc un homme qui a dirigé son temps. On lui découvre une action secrète et il semble, après tout, qu'on ait raison de voir en lui un des ressorts de l'époque. Sinon, et au moins, il reste un cas de concordance unique par la façon presque merveilleuse dont les faits de sa vie s'adaptent comme d'eux-mêmes au sens et à la portée qu'on leur veut attribuer. Ce ne sont tout au long que coïncidences singulières. Le probable s'y échafaude au point d'y devenir l'architecture du vrai. Je ne voudrais pas nuire à une si surprenante modification d'une mémoire qui m'est chère à plus d'un titre. Dès l'enfance, j'admirais M. d'Amercœur. Des liens existaient entre sa famille et la mienne, et l'état qu'on y faisait de lui me donne le plaisir de voir s'interposer à tous une opinion qui se trouvait en partie celle de mes proches. Il parlait souvent de cet homme remarquable, et le récit de ses aventures de toutes sortes, dont on ne se taisait pas devant moi, me ravissait. L'intérêt que j'y pris ne s'effaça jamais de mon souvenir, et c'est même à cette ténacité d'une fascination enfantine que je dus plus tard l'honneur de fréquenter le héros de tant de belles histoires. M. d'Amercœur a vécu dans la plus grande retraite les 20 dernières années de sa vie, assez pour que les gazettes qui relatèrent sa mort le fissent sans commentaire. Il quitta le pays après l'éclatante disgrâce où il tomba. Il voyagea, l'oubli vint, et ne laissait de lui, outre le bruit que fit jadis son évasion mystérieuse, qu'un renom superficiel, quelques hauts faits d'amour et de guerre, et le souvenir de certaines bizarreries qui lui gardèrent une célébrité vague d'où partirent plus tard les recherches dont les découvertes successives aboutirent à le porter si haut. Il se trouva qu'adolescent, dans l'intervalle de silence qui précéda la mort de M. d'Amercœur, j'entendis à l'auberge d'une petite ville lointaine prononcer ce nom qui se rattachait pour moi à toute une légende intime. Je m'enquis çà et là et j'acquis la certitude que cet amer cœur était bien le célèbre marquis dont rêva ma jeunesse. Je cherchai à le voir et il m'accorda l'entrevue demandée et je ne manquai de m'y rendre. Du bout de la place, j'aperçus l'hôtel de M. d'Amercœur. C'était une vaste bâtisse en pierre de liais. Trois des fenêtres, sous un fronton, ouvraient sur un balcon à grilles renflées que soutenait de chaque côté de la porte une cariatide en saillie. Les autres croisées, closes de persiennes, celle du rez-de-chaussée garnie de barreaux de fer. Le fronton, les pots à feu qui ornaient les combles, projetaient sur la façade, l'un un triangle oblique, les autres des petits dards d'ombre ébréchés. Au milieu de la place déserte, une fontaine retombait dans une vasque basse. Un chien qui dormait au soleil happait une mouche au passage. Il en bourdonnait çà et là. Quelques-unes, posées sur le mur, y semblaient incrustées. Trois s'envolèrent du pied de biche où je sonnais. La torpeur de la place me fit goûter la fraîcheur du vestibule. Un stuc à arabesques miroitait les murs autour d'un dallage de marbre jaune et vert. Le valet me précéda en boitant à travers une salle à manger où le couvert restait encore dressé. Sur une assiette d'argent, des pelures de fruits se recroquevillaient. Du vin, au cristal d'un verre taillé, rougissait la nappe d'une ombre sanguine. Une odeur de piment, de sucrerie et de tabac s'exhalait. « Monsieur le marquis n'est pas là, » dit l'homme en soulevant une portière. « Je vais l'aller prévenir, il est à son mail. » Je me trouvais dans une longue galerie dont les portes-fenêtres ouvraient sur un jardin. D'un rosier qui devait tapisser le dehors, quelques roses débordaient. Une admirable, rouge et pompeuse, collait au carreau la chair délicate de ses pétales. Une autre, petite et blanche, paraissait délicieusement fanée à travers la nuance verdâtre de la vitre, par laquelle on voyait deux parterres de fleurs flanquant un parterre d'eau, entouré d'une sorte d'hémicycle de hauts buis altaillés. Trois allées d'arbres divergentes y aboutissaient, dont la perspective se reflétait inversement dans trois grandes glaces posées au fond de la pièce, sur des consoles dorées et entre des panneaux de boiserie. Çà et là, sur des escabellions, se dressaient des bustes antiques. Un meuble de tapisserie adossé au mur, ses tabourets massifs et ses fauteuils monumentaux. Au centre, une table supportait un beau vase d'agate, veiné auprès d'un étui où nous sortait à demi une paire de lunettes d'or. « Le marquis est toujours un gambe, m'avait-on dit, malgré ses 80 ans. Chaque jour, il gagne sa partie de boule. » Il la quitta pour me recevoir. Il venait du bout de l'allée centrale. Sa haute taille marchait courbée sur une canne. Les pans de sa houppe lente de soie brochée lui battaient aux jarrets, et arrivé à la porte-fenêtre, aux gestes qu'il fit pour l'ouvrir, scintillèrent à ses doigts les pierres de ses bagues. Il me regardait sans me voir à cause du miroitement des vitres où heurta la paume d'or de sa canne qu'il tenait sous son bras. En entrant, le feutre qui le coiffait, jeté sur un meuble, découvrit une tête petite à ras cheveux blancs. Le visage olivâtre s'éclairait d'un bleu très clair. les mains vivaient, préhensives et non gourdes décharnées, détendues de lassitude ou rétractées d'acharnement, comme souvent celle de la vieillesse. À mon nom, le marquis m'accueillit. Soyez le bienvenu, dit-il. J'ai beaucoup connu vos grands-oncles, l'amiral et l'ambassadeur. En disant cela, il prit sur la table dans le vase d'agate une mince pipe qu'il alluma après l'avoir bourrée et se mit à marcher d'un pas allègre, s'arrêtant parfois devant moi, resté aussi debout. Les bouffées de fumée coupaient ses phrases au passage. « Je vois encore l'amiral, me disait-il. Lui et son frère ne se ressemblaient ni en stature ni en corpulence. La sienne étonnait. J'ai servi sous eux, et s'il y a quelque honneur à l'avoir fait, c'est que leurs entreprises voulaient pour qu'on les suivît de la hardiesse et de l'entente. S'ils se ménageaient peu, ils ne ménageaient rien. Leur escadre, leur chancellerie furent un dur métier. J'ai subi l'un et l'autre, et la discipline du marin égalait l'exigence du diplomate. Ben oui, je revois votre oncle avec son habit vert et ses bas cramoisis, debout sur son tillac. Son vaisseau laissait à sa suite une odeur de poudre et de cuisine. Le gabier et le marmiton s'y coudoyaient. La succulence des repas y valait le furie des abordages. Le trident de Neptune s'y mêlait en trophée à la fourchette de Cobus. Et l'autre, avec sa mine de prêtre et de vieille femme proprette, tous les moyens lui semblaient bons, il s'appropriait tous les engins. N'a-t-il pas amené avec lui trois ventriloques pour imiter parfaitement sa voix dans les entrevues qu'il voulait voir désavouer et une sorte de mime contrefaisait son personnage? Sa garde-robe cachait les défroques de toutes les mascarades. Sa pharmacie contenait des fards et des poisons. Il utilisait l'adresse des sbires, l'agilité des acrobates et le sourire des femmes. Je les ai retrouvés une dernière fois, fort vieux l'un et l'autre, qui dans une petite ville, qui dans une campagne retirée. L'amiral était goutteux et l'ambassadeur était sourd. L'un s'adonnait à collectionner des coquilles, l'autre à cultiver des tulipes. Ils en avaient de toutes sortes et fort belles, et chaque année, ils s'envoyaient quelques coquilles ressemblant à une tulipe, ou quelques tulipes pareilles à une coquille, et ainsi, jusqu'à ce qu'ils mourussent tous deux, sans avoir quitté leur vitrine ou leur plate-bande, pour joindre une dernière fois leurs mains, qui manièrent si rudement et si finement les hommes, et dont le dernier geste fut d'étiqueter une conque et de numéroter un oignon. Oui, répondis-je, ce furent de singulières figures, et ce conseil d'eux donne à regretter qu'il n'ait pas écrit quelque part ce qu'ils en savaient. Que ne racontèrent-ils le détail de leurs manœuvres ou le jeu de leurs menées? Le marquis avait reposé sur la table sa pipe éteinte qui versa sur le marbre la cendre de sa petite urne noire. « Fi donc » s'écria-t-il en rougissant presque de colère. « Écrire sa vie, se substituer au hasard qui, des destinées, rassemble dans la mémoire des hommes ce qu'il faut pour en façonner l'empreinte d'une médaille ou le relief d'un sarcophage. » Certains eurent ce travers et cette impudence prétentieuse. Écrire sa vie, retrouver l'ordre de nos statures, les motifs de nos actes, la place de nos sentiments, la structure de nos pensées, reconstituer l'architecture de notre ombre. Mais rien ne vaut que par la perspective ou le hasard dispose des fragments où nous survivons. Le destin s'enveloppe de circonstances qu'il s'approprie. Bien un choix mystérieux entre le caduc et le durable de nous-mêmes. Des maladresses et des gaucheries préparent souvent des actions parfaites. Le foudroyant coup d'épée qui touche et perce nécessite peut-être une torsion disgracieuse des muscles. Une main crispée à la poignée dirige l'éclair de la lame. Tout est perspective et épisode. Une statue de main geste intermédiaire n'en fixe que le décisif. Quel souvenir médiocre vous garderiez de moi si vous saviez tout de moi-même. Vous vous étonneriez, moi, de me voir vieux et seul dans cette maison, moi, Polydore d'amer cœur, qui ai fréquenté le lit des princesses et la cour des rois, qui ai porté l'épée et le masque, si je vous disais pourquoi m'y voici. Oh, je détruirais une disparate nécessaire. On a su mes 5 années de réclusion dans une prison solitaire, et chacun ignore encore pourquoi j'y suis entré et comment j'en suis sorti. Ma disgrâce resta un mystère et ma fuite un miracle. Les accessoires du fait n'existent pas. Les archives ne conservent aucune pièce de mon jugement. Et on n'a rien retrouvé des outils de mon évasion. Tout homme, à s'expliquer, se diminue. On se doit à son propre secret. Toute belle vie se compose d'heures isolées. Tout diamant est solitaire et ses facettes ne coïncident à rien d'autre qu'à l'éclat qu'elles irradient. On peut pour soi, et encore, avoir vécu chacun de ses jours. Aux autres, faut apparaître intermittent. Sa vie ne se raconte pas, mais il faut laisser à chacun le soin de se l'imaginer. Le marquis allait et venait par la pièce. Le bout de sa canne sonnait sur le parquet. Un rayon de soleil scintilla au bac de ses doigts. Je le regardais marcher. Sa longue houppelande frôlait l'angle de la table et éparpillait la cendre grise versée par la pipe. Et je pensais à sa vie singulière d'alternative et de conjoncture, de balles et de batailles, de duels et d'amour, pleine de sursauts et de saillies, et dont il gardait au fond de lui à jamais les rumeurs et les échos. Telle fut ma première entrevue avec M. d'Amercœur. Les propos qu'il me tint sont bien ceux-là. Depuis, on a reconstitué la trame de cette vie dont le célèbre marquis faisait mystère. La silhouette devint statue. Les quelques anecdotes rapportées ici tiennent à l'époque de sa jeunesse. M. d'Amercœur en parlait volontiers et il se départit devant moi peu à peu de sa réserve. Ma prudence ne se hasarda jamais à inquiéter la sienne. Je l'écoutais sans l'interroger. Cette discrétion me valut sa confiance et il la poussa jusqu'à me laisser copier une longue lettre où il était question de lui et qui relatait un épisode de son adolescence qui lui plaisait et m'avait diverti. Le lecteur la trouvera parmi ses histoires. Sauf cet écrit, les autres souvenirs me viennent de nos causeries où je les entendis conter par l'illustre conteur. Bon, je n'y prétends à rien de plus qu'à reproduire assez exactement le tour qu'il leur donna, soit en en relatant la matière, soit en plaçant le récit dans sa propre bouche. Peut-être ces brèves histoires, dont les circonstances me parurent curieuses, serviront-elles, à mon insu, à combler quelques lacunes dans l'étude qui se fait de tout ce qui a trait à notre personnage. Je ne le crois pas pourtant, et j'aimais mieux voir là des fables ingénieuses où se jouait l'esprit d'un vieillard à y disposer sa vie passée en perspectives ornementales. Les événements qu'il rapporte et les faits qu'il s'attribue présentent un curieux mélange de fiction et de vérité. L'un et l'autre s'y sentent et leur assemblage n'est pas sans art. J'ai goûté l'agrément de ces aventures. D'autres leur donneront peut-être un sens et une portée, mais je préfère en entendre l'accent et en imaginer l'allégorie qui serait assez celle d'un homme masqué jouant de la flûte au crépuscule sous l'arcade d'un bosquet de loups et de roses.